Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui un artiste inclassable, Bubzer. Alors, je dis inclassable parce que j'ai écouté son nouveau projet et vraiment, ça m'a enthousiasmé. Mais c'est de l'électropop guitarisé. Voilà, il fallait mettre un mot là-dessus, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment les termes parce que je pense qu'électropop guitarisé, c'est un peu restreint pour ce que c'est. C'est psychédélique, c'est un voyage, c'est une aventure. Bienvenue à toi, Bubzer, dans nos studios.
Salut, merci pour l'accueil.
Avec grand plaisir, Bubzer. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer un petit peu ce que tu faisais. C'est compliqué. Tu es un artiste complet avec beaucoup de facettes. Est-ce que tu peux te présenter, toi, déjà?
Alors, je m'appelle Bubzer. Donc ce projet-là, il a commencé en 2023 avec notamment l'acquisition d'une boîte à rythme. C'est vraiment l'élément nouveau. Moi, par le passé, j'ai eu plusieurs projets et récréations qui étaient un quintet hip-hop, rock. J'ai eu mon trio, Benoît Moreau trio, plus acoustique, jazz, rock, folk. Donc je suis vraiment guitariste en fait de base, on va dire. Mais toujours intéressé par la musique électronique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Ça fait plusieurs années aussi que j'étais de plus en plus attiré par le chant. Mm-hmm. Mais voilà, il y avait plein de choses à faire. À l'époque, j'arrivais à Marseille, il fallait déjà gagner des sous avec la musique, trouver des groupes en tant que guitariste. Donc ça a mis un petit peu de temps. Et voilà, en 2023, j'ai acquis cette boîte à rythme TR-8 et en fait... J'ai commencé par en jouant énormément dehors en fait. J'ai fait énormément de sessions
live
urbaines en fait, à jouer au Vieux-Port. J'ai mon grand frère qui est circassien, artiste de rue, donc j'ai un petit contact avec ça. Et j'ai passé mon adolescence à faire du skateboard aussi, comme on disait tout à l'heure. Il y a ce fait d'être dans la rue, devant tout le monde, t'essayes des trucs, tu te pètes la gueule, et en fait tu t'en fous et t'es là dans ce truc-là au contact du monde. Donc je me suis vraiment servi de cette expérience pour lancer ce projet Bubzer. Et donc pendant un an, j'étais avec ma boîte à rythme, guitare, pedalboard, deux amplis dans la rue, beaucoup sur le Vieux-Port, un petit peu à Aix. Et pendant cette première année, en fait, j'ai que fait d'improviser, que des impros, voilà, avec le looper, tout ça. Et du coup, super chouette, j'ai fait plein de super rencontres, j'ai reçu énormément de bonnes vibes, en fait, des gens. Ça, c'est vrai que dans le monde de la musique... on passe beaucoup de temps un peu enfermé, on passe beaucoup de temps à travailler les réseaux, après on fait des scènes, mais des fois en fait le contact n'est pas forcément facile d'aller chercher les gens. Après le concert, les gens ils s'en vont, enfin ça manque des fois que ça prenne plus de place, et j'avais envie de ça. Et donc ouais, dans la rue j'ai reçu tellement de love quoi, que ce soit en direct ou derrière via les réseaux, donc vraiment trop chouette. Et en fait, quand je jouais dehors comme ça, je vendais mes CD et vinyles de mon ancien projet, mon trio. Et rapidement, en fait, j'en avais plus. J'avais tout vendu. Donc, il a fallu aller enregistrer quelque chose de nouveau. Et donc, dès novembre 2023, je suis allé 3 jours au studio chez mes potes Paul Chamillard et François Chave, au studio On Mars Sound Design. Et j'ai gardé le même procédé. En fait, je me suis enfermé 3 jours. Pendant 3 jours, que des impros. On a sélectionné ce qu'on a préféré. On a édité derrière quand même, un petit peu arrangé et tout ça. Et voilà, boum, ça a donné vie à Street Tape Volume 1, du coup, qui est sorti en septembre dernier. Et donc, électropop guitarisé. Pourquoi ? Parce que bah, du coup, vraiment, avec cette boîte à rythme comme élément central, on est clairement dans l'électro, dans la musique dance. Pop, aujourd'hui, le projet est encore en développement, à la recherche d'une identité, même si elle est déjà là, mais... moi, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de place pour le chant et amener un caractère pop, du coup, par rapport à ça. Et guitariser, parce qu'en fait, la particularité de ce projet, c'est que pour le moment, je me limite à l'utilisation de ma guitare comme instrument harmonique et mélodique, alors que l'électro, souvent, c'est quand même des claviers à gogo.
Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc, que c'est rare d'entendre la guitare dans... Et Daft Punk le faisait pas mal aussi, quand même, à un moment, non?
C'est vrai, mais... Mais il y avait quand même un clavier qui traînait quelque part là. Le truc vraiment spécifique, où c'était une contrainte au début et j'ai décidé d'en faire une force et une identité, c'est d'avoir, voilà, c'est guitare. Alors après, avec pas mal de pédales d'effet pour aller chercher des sons un peu sympas, l'octaveur pour la basse et tout ça. Mais voilà, électropop guitarisé, c'est par rapport à cette instrumentation, ouais. En fait.
Et sur ce processus de création, là, qui a l'air assez dingue, de se retrouver 3 jours donc, en création, entre guillemets, libre, comment ça se passe? Tu es tout seul? Il y a des gens quand même qui viennent te donner un regard extérieur pour te dire, là, c'est une piste intéressante, ou là, t'attardes pas trop sur ça. Comment tu fais?
Alors, j'étais vraiment seul en cabine. Mm-hmm. Après, du coup, comme je disais, je travaillais avec, au studio de Mars Sound Design avec Paul et François, que je connais très, très bien. En fait, c'est des gars... On a un peu grandi ensemble musicalement, entre guillemets. Quand moi, j'ai lancé mon projet Récréation en 2018, en fait, Paul et François montaient leur studio. Mm-hmm. Et donc, à ce moment-là, Paul est devenu l'ingé son du projet. Donc, on n'a pas enregistré avec eux, mais on a mixé ce projet-là avec eux. Ensuite, mon trio, j'ai enregistré et mixé avec eux. Donc, on se connaît par cœur, on se fait vraiment confiance et on a tous progressé dans nos domaines, moi en tant qu'instrumentiste et en tant qu'ingé son. Donc c'est vrai que j'avais leur regard extérieur en fin de journée ou en fin de session, on réécoutait tout, on mettait déjà un peu des marqueurs qui est là, il s'est passé un truc.
Ouais. Ouais, pour essayer de, parce que j'imagine qu'il faut trier, parce que
il y a du tri à faire.
Parce que justement ce titre de Street Tape volume 2, du coup ça fait penser forcément aux mixtapes des DJ à une certaine époque, mixtape qui était en fait souvent des compilations de musique, les DJ sélectionnés pour les assembler, on va dire comme un patchwork et un voyage. C'est un mixtape, mais que de tes sons, pourquoi donc du coup ce nom là de Street Tape?
Alors du coup j'ai utilisé cette appellation sous son sens un petit peu plus actuel, on va dire. Donc effectivement, comme tu le dis justement, il y a de base, c'était vraiment voilà, les gars, les DJ avaient leurs cassettes où ils faisaient leurs compilations. Et en fait, à partir des années, je sais pas exactement, 90-2000 peut-être, ce terme a commencé à servir à définir des projets musicaux, un format en fait, musical, plus ouvert à l'expérimentation, un peu plus en dehors du cadre, qu'à une ambition commerciale moins forte qu'un EP ou un album.
Oui.
L'idée, c'est qu'un EP ou un album, quand même, en fait, il est designé pour qu'en fait, ça touche le public le plus large, quitte à faire certains sacrifices, je pense, au niveau de l'identité. Enfin, ça, c'est à voir entre les artistes et les maisons de disques. Mais moi, bah, justement, encore une fois, avec Paul et François, on a rapidement eu l'idée de passer sur ce format dit de mixtape, pour assumer et mettre en avant ce côté expérimental, risqué, sans concession. Voilà. Pour le moment, c'est
une aventure. Justement, quand on découvre ce projet, parce qu'il a tout un volet visuel, puisqu'il y a un clip qui a été tourné juste en dessous de la Bonne Mère, avec voilà des dessins des enfants de Belzin, si je me trompe pas, qui apparaissent dans le ciel. C'est psychédélique, c'est un voyage. Quand on écoute, quand on regarde en tout cas, on a l'impression qu'il y a une histoire derrière. Est-ce que toi, tu vois une histoire derrière quand tu le composes, ou ça, comment tu composes, comment tu penses ce projet? Il y a un fil rouge autour de ça?
Bah, le fil rouge, c'est vraiment de mettre toutes ces influences que j'ai parcourues à travers mon adolescence, le skateboard qui comporte une... Quand tu fais du skate, en fait, tu geeks un peu les vidéos de skate et en fait, tu as tout ce monde de musique qui t'arrive parce que c'est ultra, ultra riche à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément influencé. Comme beaucoup d'artistes actuels, d'ailleurs, je pense que le sujet du skateboard, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Je pense qu'il y a ce thème commun aussi de la liberté totale, ou voilà, c'est pas...
Bon, de la jeunesse aussi, peut-être, ouais.
Oui, puis hors cadre, hors club, tu prends ton skate, t'y vas, tu fais ce que tu veux. Là, la musique, il y a ce truc un peu pareil de super libre et créatif. Donc ouais, toutes ces influences et l'improvisation, en fait, de par le fait que j'ai fait beaucoup de jazz, sans avoir voulu vraiment faire du jazz esthétiquement parlant, mais ce délire d'improviser, ça m'avait toujours attiré. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transférer sur ce nouveau projet et d'avoir cette énergie spontanée où, en fait, quand il y a quelque chose qui se crée sur le moment, des fois, ça peut être un petit peu moins qualitatif musicalement de quelque chose qui est vraiment prémédité et tout, mais tu as un truc un peu magique. Il y a cette espèce de fraîcheur où on sent que c'est le truc du moment. Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder dans le projet. Alors, je suis beaucoup moins fou que lui, mais je pense à cet artiste qui s'appelle Marc Ribillet, avec son clavier, le micro, et lui, en fait, il fait que de l'impro, quoi, que ce soit en live et tout. Effectivement, c'est pas le gars que tu vas écouter sur Spotify. Moi, j'ai un peu plus l'ambition de faire de produire de la musique vraiment qu'on écoute en dehors du live. Mais voilà, il y a tout ce processus-là, et en live, c'est aussi ce que j'essaie de retranscrire. Par exemple, avant-hier, j'ai joué au Talus. J'étais vraiment content parce que du coup, il y a cette nouvelle formule où là, je suis sorti de l'improvisation totale quand je fais mes lives. Mm-hmm. Maintenant, j'ai Ableton en plus, quelques stems. Ah, oui. Donc, je joue ces morceaux, tchouk tchouk tchouk. L'arrangement est complètement libre. J'ai quelques parties, je sais, j'ai comme des checkpoints, des points clés où je sais que je vais m'appuyer sur ces parties-là. Mais j'avais vraiment envie de garder ce truc d'improviser à un moment, voilà, bon, telle basse, je sais pas, le truc qui se fait sur le moment. Mais cette nouvelle formule était assez fraîche. Et en fait, là, trop cool, avant-hier, au Talus, ça s'est fait naturellement. J'ai eu beaucoup de phases d'impro. Et en fait, c'était clairement les moments les plus chouettes du concert, quoi.
Bah c'est justement la question. Tu m'as devancé sur la question parce que c'est exactement ce que je me posais comme question quand j'ai découvert le projet. Je me suis dit, mais comment on retranscrit ce type de projet sur scène en live? Parce que comme c'est un projet où on sent justement que c'est organique, ça évolue, que c'est quelque chose qui se compose, on va dire, dans la spontanéité, comment on fait pour retranscrire la spontanéité sur scène et retranscrire un projet comme celui-là directement au public? Bon, tu viens d'y répondre un petit peu, mais c'est vrai que j'avais du mal à savoir comment on fait pour suivre un chemin qui n'a pas l'air d'être un chemin, justement.
Bah, j'ai une espèce de petite carte quand même, notamment le début et la fin. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai une suite de morceaux que je suis à peu près, mais les morceaux, je ne les joue pas forcément de A à Z. Souvent, il y a un moment clé que je vais utiliser, genre le momentum, le refrain ou la tourne principale, le truc un peu fort. Je vais jouer certaines parties, en lancer d'autres, et amener cette espèce de mix, en fait. Mm-hmm. En fait, au final, là, sur scène, c'est vrai que c'est ça qui est un peu nouveau pour moi, étant donné que je suis vraiment instrumentiste dans un premier temps. C'est que je me retrouve un peu entre deux terrains, entre l'instrumentiste et le DJ. Et c'est vrai que moi, j'ai pas d'expérience de DJ, j'ai jamais mixé ou quoi. Et en fait, c'est vrai que là, j'ai vraiment cet exercice qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire que je joue slash je mixe mes propres morceaux,
ouais.
Slash j'improvise aussi des parties complètement. Donc voilà, il y a tout ça qui vient.
C'est vraiment le parcours d'un artiste de rue qui passe par les studios et puis qui arrive sur la scène, quoi. On est sur plusieurs univers en même temps.
C'est ce qui s'est passé.
Ah bah c'est vrai que c'est surprenant. Bah pour je pense que là, on a donné envie aux auditeurs et auditrices de découvrir quand même ton travail. On va écouter un des sons de ce projet qui s'appelle Hurry. Si je me trompe pas, je le prononce bien à l'américaine ou...
Hurry, parfait.
Hurry, hurry. Allez, c'est parti, on lance ça tout de suite et on est toujours avec donc Bubzer dans les studios de Fréquence Mistral. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time, got so much time, got so much time to get there, need to hurry. We'll be right back. Et donc oui, on revient après donc ce tube, ce Hurry. Donc du coup voilà, on vient de découvrir un peu ton univers, tu en as parlé, on le découvre en live. La question que je me posais et que je voulais te poser, c'est pour toi, ta musique, c'est quoi le meilleur endroit ou le meilleur moment pour l'écouter ?
Le meilleur endroit, meilleur moment, je pense que c'est en live, sur scène, clairement. Et sinon, aujourd'hui, à l'état actuel du projet, ce que le projet propose, je pense que c'est vraiment en soirée, en soirée pour danser, ou justement, ce qui va peut-être me permettre de faire la transition vers ce clip concept qui s'appelle Running and Dancing, je pense à l'apéro, en fait. Début de soirée, si tu es en train de te chauffer avant d'aller je ne sais où dans des lieux obscurs de ta cité favorite, je pense que c'est top. Comme tu disais tout à l'heure, tu balances une boiler room ou un truc comme ça, ouais. Tu sais qu'il va y avoir un bon son que tu n'écoutes pas d'une oreille comme ça à fond de A à Z, mais cette espèce de quelque part ambiance musicale où après tu peux un moment phaser dessus et vraiment un peu bloqué. Je pense que ce truc de début de soirée à la maison entre potes avant de bifurquer ailleurs, ça peut vraiment fonctionner. Et c'est un petit peu à ça qu'on a pensé du coup en créant cette espèce de clip grand format concept qu'on a appelé Running and Dancing, qui a été filmé et monté par monsieur Aaron Reed, que je salue. Donc en fait, sur cette Street Tape volume 2 qui sort le 18 avril, on a 12/13 morceaux parce qu'il y a un radio edit, donc en fait on a quand même 50 minutes de musique. Et en fait il y a eu cette idée par rapport à la vidéo, moi j'avais très envie de mettre en avant la course à pied, parce qu'en fait depuis début 2023 c'est quelque chose qui était très présent dans mon lifestyle, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien, moi ça m'aide dans un état méditatif, ça m'aide à bien faire les choses. Et en fait, ça a influencé vachement ma musique aussi. Quand je jouais beaucoup dans la rue, souvent le matin, j'allais courir, je rentrais, et après, boum, j'allais jouer dehors, et ça me donnait cette force, quoi. Et j'avais envie de retranscrire ça un peu dans mon œuvre musicale. Donc il y avait cette idée, voilà, filmer toute une course et tout. Après, il y avait cette idée, mais on pourrait y avoir de la danse aussi. Et puis, début janvier, j'ai fait cet atelier pédagogique au théâtre de l'œuvre, via Bertie Guibert, que je salue. Et avec les enfants, il y a cette idée de les faire participer, justement, de leur transmettre un peu cette espèce de processus créatif spontané, où voilà, t'as pas le temps de réfléchir, hop, tu balances, et en fait, t'as des choses honnêtes et authentiques qui sortent de ça. Donc en fait, les enfants, on les a fait s'interviewer les uns les autres à Belzunce, et la question, c'était juste, pour toi, Belzunce, c'est quoi ? Ah ouais. Donc là, ça a sorti tout un catalogue de mots.
Ah ouais, alors juste pour le rappeler quand même, c'est que les dessins apparaissent dans le ciel du clip. On les voit apparaître de manière un peu psychédélique, et on voit les dessins des enfants apparaître, pour le rappeler quand même. Parce que c'est vrai
pour
que
faire le lien.
Ouais, faut s'en souvenir. Ouais.
Et donc ouais, à partir de ce catalogue de mots, les enfants, on leur a fait écrire des paroles, chanter, enregistrer. J'ai leur sample dans mon live. Il y a le rire de la petite Madina. Il y a tous les enfants qui font « Si tu veux danser, viens dans mon quartier ». Et on les a fait dessiner. Et du coup, ensuite, Fabienne Guibert, DA du projet, que je salue, a eu cette idée. Elle me dit, mais Benoît, en fait, viens, les dessins des enfants, on les met dans ce clip, en fait, petites animations à droite à gauche. Et donc voilà, ça a donné cette vidéo, cette espèce de petit film Running and Dancing, où pendant 50 minutes, on a deux plans séquences de moi qui danse au lever du soleil à côté de la bonne mère, moi qui cours au coucher du soleil sur la corniche, quelques petits FX sympas et les insertions des dessins des enfants. Donc voilà, c'est rigolo, ces concepts, ça a fait un support visuel pour écouter toute cette musique, et t'as plein de petites surprises cachées, en fait. Si tu regardes bien la vidéo, en fait, il y a des trucs un peu débiles, ou à un moment, il y a un panda d'enfant qui arrive, qui se dédouble. On s'est beaucoup amusé, quoi.
Ouais, c'est psychédélique, c'est Marseille comme on l'imagine. Justement, je voulais arriver sur cette question de Marseille, parce que tu t'es installé à Marseille il y a plusieurs années déjà. Je voulais savoir si toi, si tu ressens ce que Marseille a eu comme impact sur ta création, sur ta manière d'appréhender ou de voir la musique.
Mais je pense que oui, de par plusieurs éléments. Déjà, ayant grandi en banlieue parisienne, je suis arrivé ici en septembre 2017, après à Marseille. Et pour moi, Marseille, c'est une espèce de ville banlieue, quoi. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. c'est un espace dans lequel je me sens à l'aise, où voilà, il y a énormément de populations mélangées, il y a énormément de vivre ensemble, il y a énormément de respect, d'échange, et il y a un truc vraiment chouette qui sort de tout ça. Donc c'est pas pour rien que je me sens vraiment chez moi aujourd'hui ici, plus que à Poissy dans les Yvelines où j'ai grandi. C'est un peu moins fun. Et oui, du coup, toutes ces influences, les personnes que j'ai rencontrées, et le fait, même avec ce projet, d'évoluer directement dans la rue, au contact des gens, d'avoir leur retour par rapport à ce que je faisais, ça transpire et ça t'influence.
Ça nourrit. Justement, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des sessions live comme tu fais avec la boîte à rythme dans d'autres villes que Marseille ?
Alors, j'ai joué à Toulouse il y a pas longtemps.
Ah, trop bien.
Et je suis allé jouer un petit peu à Aix quand je jouais beaucoup dans la rue. Et en fait, j'avais très envie de beaucoup voyager avec ce projet. Et après, j'ai capté qu'en fait, ça allait être un peu difficile en termes de logistique. En fait, surtout, ça allait être compliqué en termes d'autorisation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus dans toute l'Europe et même en France, en fait, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est même interdit de jouer avec de l'amplification.
Ah bon ?
Donc Marseille, comme d'hab, il y a les lois qui sont propres à Marseille. Et donc, j'ai pu même jouer dans la rue avec deux amplis. À Aix, il y a vraiment cette culture de jouer sur le marché et tout. Donc, c'est passé aussi. Mais en fait, j'allais me prendre des stops un peu partout. L'été avant de lancer vraiment le projet, j'étais en Allemagne où j'ai pas mal joué dans la rue en Allemagne avec deux amis. J'avais la boîte à rythme. Et en Allemagne, c'est très, très carré. T'as souvent des autorisations. Tu dois jouer à tel endroit pendant 30 minutes et ensuite, il faut bouger. Mais en fait, ça devenait de plus en plus compliqué. On voulait aller jouer à Cologne, Düsseldorf et tout ça. En fait, c'était plus possible. Donc, on est resté dans un petit bled qui s'appelle Bielefeld, un truc paumé au milieu de l'Allemagne. Mais au moins, là, on pouvait jouer. Donc ça, c'était un peu dommage parce que je pense qu'il y a une dizaine d'années, ça aurait pu le faire encore. Mais là, clairement, en fait, j'allais claquer des sous dans mes billets de train, dans mes Flixbus, je ne sais quoi, arriver sur place, jouer 5 minutes.
Et les municipaux qui débarquent.
Voilà, et me faire stopper, voire saisir mon matos ou me prendre une amende. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage. C'est quelque chose que j'avais vraiment très envie de faire. Et ça devenait compliqué. D'où l'idée aussi de... C'était prévu de me donner à fond à développer le projet dans un premier temps dans la rue pendant un an, mais effectivement il a vraiment fallu passer à la suite parce qu'en fait par rapport aux besoins techniques du projet, ça devenait vraiment compliqué d'aller de l'avant et de développer vraiment le projet dans cet espace urbain.
D'avoir des structures, aujourd'hui c'est quand même plus simple pour installer le matériel, j'imagine, etc. Ouais. Justement, toi tu viens de la culture skate, donc Bubzer, tu as skaté, tu as traîné la plupart des rues de ta ville, j'imagine. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça a eu un impact sur ta manière de créer ta musique et de voir la musique ?
Ouais, carrément. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a... Cette école du skate, déjà, il y a ce truc où vraiment, il n'y a pas de règles. En fait, moi, et comme je pense pour beaucoup de skateurs, quand j'ai commencé à faire du skate, c'est la première fois qu'en fait, je faisais un truc sans avoir l'aval ou le regard ou la validation d'un adulte, en fait.
Ouais, pas d'entraîneur, pas de...
Voilà, genre j'étais minot, j'avais mes parents. Après, j'ai fait du judo, il y avait un prof. J'ai fait du foot, il y avait le coach. J'avais fait de la musique, il y avait un prof de guitare, machin. Et en fait, le skate, t'arrives, c'est le why, quoi. Donc, alors, t'as des gens plus expérimentés qui vont un peu t'aiguiller. Mais du coup, t'es là dans un truc, il y a toute une culture, il y a plein de choses à faire, à différents styles. Il y a des codes, tu t'identifies pas. Il y a la vidéo, la photo, la musique. Et en fait, bam, t'évolues là-dedans. Et comme on en parlait tout à l'heure, il y a ce truc où tu pratiques en extérieur. Donc moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de skatepark à Poissy. On skatait sur la place du marché. Donc tu es dans ce truc où tu t'appropries un espace qui n'est pas fait pour ça dans un premier lieu. Tu te pètes la gueule devant tout le monde et tout. Il y a vraiment ce truc de... C'est très brut, très riche, très ouvert et super varié et je crois que l'échec est mis en avant aussi. Genre, ça se fait peut-être un peu moins maintenant, mais tu sais, il y a ces vidéos, tu vois, au début de la vidéo de skate, les gars, ils se pètent la gueule comme jamais.
Ça explose deux, trois fois, et pour réussir le truc, c'est la fin. Ouais.
Ça fait partie du truc, quoi. Et donc, ouais, clairement, ça, 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 ça a vraiment eu un impact énorme et même j'ai rencontré pas mal de potes musiciens en fait qui via le skate et tout ça, donc c'est comme en musique. Alors après en musique tu peux passer par le conservatoire, tu peux passer par une école, par ceci, par cela.
D'ailleurs tu parlais du jazz, je t'interromps, mais tu es passé par le t'as appris comment la musique toi?
Alors la musique, j'ai commencé minot au conservatoire à Poissy à faire de la guitare classique, mais j'avais un peu du mal à rester assis sur une chaise, j'étais plus dans le sport quand j'étais petit. Après j'ai fait un peu de guitare électrique avec un autre prof aussi. Après là je suis tombé dans le skate, donc vraiment j'ai fait un peu que ça. Puis je m'y suis remis sérieusement vers 18-19 ans, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'IMEP. Et ensuite je suis venu à Marseille, j'en avais marre d'étudier, j'avais vraiment envie de monter mon projet, c'est là que j'avais monté Récréation. Mais par la suite, vu que j'ai rencontré pas mal de Zikos qui étaient au conservatoire et que l'ambiance avait l'air super chouette et tout ça, j'ai fait 3 ans dans la classe de jazz du conservatoire de Marseille, de 2018 à 2021, c'est ça.
Le jazz, c'est surprenant comme musique, parce que je sais que j'en avais parlé avec un artiste qui était passé ici, qui m'expliquait que c'est un peu comme pour le ski. D'abord, on doit passer par la piste verte, par apprendre à tous les bases, être très cadré, vraiment sortir les bleus, les rouges et tout ça. Et puis, à un moment, d'un coup, on peut partir en freestyle et sortir complètement de la zone de confort pour aller vraiment expérimenter tout ce qu'on a envie. Et c'est peut-être ça qui t'a donné cette ouverture sur la musique ou sur le son, en tout cas.
Ben, c'est vrai qu'il y a le jazz, c'est une musique qui traditionnellement est vraiment codifiée avec plusieurs éléments, que ce soit l'instrumentarium du jazz, les instruments utilisés, le swing, le vocabulaire mélodique, harmonique. Et c'est vrai qu'au début, sans doute, ouais, si on veut vraiment aller dans cette voie, il faut être cadré, apprendre le langage en fait, le vocabulaire. Mais... c'est une musique qui a toujours été ouverte sur l'improvisation, l'avenir, la création. Et c'est vrai que dans un second temps, comme tu disais, il y a ce truc où, ok, maintenant, les gars, on éclate tout ça, il n'y a plus de règles, on s'en fout. Mais tu as tout ce bagage qui te permet de naviguer dans cet espace un peu sans règles. ce qui est un des trucs qui me plaît le plus dans cette musique aussi, ouais.
Et comment alors aujourd'hui là, pour t'écouter, on te retrouve où, on te voit où, comment on te retrouve sur scène ou en ligne?
Alors en ligne on me retrouve sur toutes les plateformes, donc Beubzer, B-E-U-B-Z-E-R, l'avantage c'est que ce nom est complètement unique. Sur les réseaux je suis assez actif sur Instagram, sur YouTube du coup avec là énormément de contenus qui vont sortir avec ce clip grand format, et toutes les petites vidéos aussi qui vont en découler. En termes de live, alors là j'ai 3 dates qui viennent de passer à Toulouse et Marseille, et la prochaine date elle est un petit peu éloignée mais elle est vraiment chouette. Le 26 juillet je joue à Cramant dans le Jura, un festival qui s'appelle Little Town Festival. Donc on est très content de cette date parce que le projet est encore bébé et on a déjà la chance de pouvoir se produire sur vraiment une grosse scène de festival, où on prévoit d'ailleurs de mettre en place un peu de VJing, de vidéos sur scène en utilisant justement
les dessins des enfants.
Voilà, les dessins des enfants.
Pour faire raccord avec ce projet vidéo.
Voilà, pour qu'on trouve vraiment l'univers visuel sur scène, quoi.
Donc ouais, et j'imagine qu'il y aura cette dimension psychédélique qui pourra être vraiment portée au nu sur scène devant ce public donc du Jura, et on espère prochainement de retour sur Marseille ou dans la région.
Il y a des petites choses à confirmer, il y a un truc à confirmer fin juin sur Marseille et tout, mais je ne peux me prononcer encore. Mais vous aurez toutes les infos en me suivant, notamment sur Instagram, là où je suis le plus actif.
Donc sur Instagram, Beubzer, B-E-U-B-Z-E-R. Merci d'être venu dans nos studios et de nous avoir présenté ton travail, ta musique, ton univers. On va se laisser donc sur un de tes sons pour continuer de découvrir en exclusivité. Faut le préciser parce qu'on sera un jour avant la publication du projet. Ce son, c'est...
What's on your mind, le radio edit de 3 minutes 30.
Le radio edit qui sort bien sûr du projet Street Tape Volume 2 qu'on peut retrouver donc sur toutes les plateformes. Merci à toi et excellente journée sur Fréquence Mistral ou ailleurs.
Merci beaucoup, à bientôt.
Ciao, ciao.